Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le Grand Face-à-Face de France Inter en direct jusqu'à 13h, le Grand Face-à-Face avec mes camarades du samedi, la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Natacha. Et une émission évidemment très largement consacrée aujourd'hui à l'attentat islamiste d'hier à Conflans-Sainte-Honorine. Vous l'entendiez à l'instant dans le journal d'Anaïs. L'Élysée annonçait ce matin qu'un hommage national sera rendu à l'enseignant décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Et puis dans un deuxième temps de l'émission, et alors que le couvre-feu entre aujourd'hui en vigueur à Paris et dans les grandes métropoles du pays, réflexion autour des mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de Covid. Rendez-vous tout à l'heure avec Emmanuel Hirsch, il est professeur d'éthique médicale et il dirige un ouvrage collectif Pandémie 2020. Emmanuel Hirsch qui nous rejoindra dans une trentaine de minutes. Mais pour commencer, évidemment, c'était hier soir à Conflans-Sainte-Honorine. Le président de la République s'exprimait solennellement, la voix pleine d'émotion.
Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves, la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Ce soir, je veux, avant toute chose, avoir une pensée pour l'ensemble de ses proches, sa famille. Avoir une pensée pour ses collègues. Ici au collège. Mais plus largement, je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Mais je veux dire ce soir de manière très claire. Ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement. Mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas.
Ils ne passeront pas, donc, disait le président de la République, et nous sommes encore sous le choc, en pleine émotion et au-delà de la sidération, Natacha. Que dit cet attentat islamiste commis hier pour vous ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une émotion absolument immense et nous avons tous une pensée pour la famille de ce professeur, pour ses collègues et pour l'ensemble des professeurs, en effet, parce que ça va avoir des conséquences absolument terrifiantes sur le corps enseignant. Mais je crois que notre rôle à nous, c'est justement d'essayer de nous extraire de l'émotion et de regarder point par point le déroulé de cette histoire, avec aussi les zones d'ombre que l'enquête sera chargée d'éclaircir. Parce que oui, la zone d'ombre principale, là-dedans, elle est entre, d'un côté, donc, ce processus, hélas, on ne peut plus classique, d'un professeur qui fait son travail et qui, ensuite, est traîné debout et mis en cause par des groupes de pression qui utilisent tous les moyens de la modernité, c'est-à-dire notre état de droit, la justice, les réseaux sociaux. Et donc, la question, c'est de savoir comment on passe de cela, qui est hélas classique, à ce jeune homme dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, visiblement né à Moscou en 2002, et qui,
âgé de 18 ans,
massacre ce professeur. Voilà, ce massacre-là, comment on en arrive là, c'est la question des enquêteurs. Mais avant cela, il y a justement tout ce qui permet d'en arriver là, c'est-à-dire justement les pressions, la solitude aussi de cet enseignant qui faisait son travail et qui le faisait intelligemment, puisque visiblement, il a même pris soin de ne pas choquer, de prévenir que un élément qu'il allait montrer pouvait choquer. C'est-à-dire que c'était un homme raisonnable, responsable. Et je pense que c'est tout le reste de la machine qui défaille, et qui défaille depuis des années. Symboliquement, vous savez, 2002, année de naissance de cet assassin, c'est l'année de publication des Territoires perdus de la République. Un livre qui alertait sur ce genre de phénomène, qui, et les auteurs de ce livre ont été traînés dans la boue, traités de racistes, ils montaient en épingle des faits qui n'avaient aucune importance. C'était il y a 18 ans, donc le terrain, on l'a perdu depuis 18 ans. C'est tout ça qu'il va falloir regarder en face et le plus posément possible pour justement éviter de sombrer dans l'hystérie, dans les excès, dans le drame. Et parce que quand le président dit il faut faire bloc, le problème est que justement pour l'instant nous ne faisons pas bloc et que la question c'est de savoir comment on fait bloc tous ensemble. Sans renoncer à ce qui fait l'identité de la République française.
Et on va en parler justement évidemment Natacha, et puisque vous parliez de ce livre Les territoires perdus de la République, on entendait ce matin à l'antenne de France Inter la colère de Yanis Roder qui est historien lui-même, qui est professeur d'histoire géographie et qui avait participé à cet ouvrage collectif, et il disait dans la matinale que cela faisait 20 ans qu'il tirait le signal d'alarme, il disait donc ça colère. Gilles Finkelstein.
Oui, on a entendu l'émotion du président de la République, qui, je crois, est l'émotion de toute la nation. Et on est tous inondés de sentiments et un peu vides de mots. C'est difficile de mettre des mots, de mettre les bons mots sur les sentiments qu'on éprouve. Entre Yanis Roder parlait de colère, entre affliction et colère. Et évidemment, il faut être prudent parce que il manque encore des informations. On a des informations, mais il en manque encore. Le procureur tiendra une conférence de presse tout à l'heure.
Oui.
Ce que l'on sait, malgré tout, c'est qu'un enseignant d'histoire-géographie a été assassiné, a été même décapité par un terroriste islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d'expression.
Et après avoir laissé la liberté aux élèves qui auraient pu se sentir choqués de quitter la salle si ils ne voulaient pas voir ces caricatures-là.
Oui, et le simple fait d'énoncer ce que je viens d'énoncer montre l'ampleur de ce qui s'est passé. Et je crois que si cet événement a un tel écho, c'est parce qu'il s'agit de la figure du professeur et parce qu'il s'agit de l'école. Et que l'école doit être le lieu dans lequel des enfants, des adolescents deviennent non seulement des adultes mais des citoyens. Et ils le font pas seulement parce que c'est un lieu dans lequel on accumule des savoirs, parce que son regard au monde n'est pas le même après que l'on sache lire, après que l'on apprenne une langue étrangère, après que l'on comprenne ce qu'est une expérience scientifique. Plus profondément, on devient un adulte et on devient un citoyen parce que on apprend à se décentrer. On apprend à ne pas regarder le monde seulement par rapport à soi, mais avec les yeux des autres.
Oui.
On essaye d'apaiser ses affects et d'accéder à la raison, de pas seulement avoir des réponses, mais de se poser des questions. C'est ça l'école. C'est ça qui fait que on devient des individus libres et des citoyens actifs. Et c'est ça qui a été touché, et je crois que c'est pour ça que l'émotion est aussi forte.
Natacha.
Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire Gilles sur cette définition de l'école. Et ce fait monstrueux nous rappelle une chose, c'est que cette conception de l'école, c'est la conception qu'en a bâtie la République française. Et en fait, ce que nous rappelle ce fait, cette horreur, c'est que la France est une espèce d'îlot dans le monde. Alors l'Europe aussi, dans le sens où partout en Europe prévaut cette idée de la liberté des individus, de la liberté de penser, qui, hélas, n'est pas répandue partout ailleurs dans le monde. Mais la France a une façon assez particulière de concevoir cela et qui, en effet, met l'école au centre. Parce que c'est l'idée que c'est par l'école, comme vient très bien de le dire Gilles, que l'on acquiert cette capacité à utiliser la raison universelle pour se penser au milieu des autres, dans un espace public que nous partageons tous. Et c'est cela qui est bafoué. Le problème est justement de savoir si cela, nous le défendons suffisamment, dans le sens où est-ce que, oui, nous le faisons vivre au quotidien. Parce que ce que l'on voit...
Parce que le paradoxe, c'est que l'enseignant le faisait, lui. Il n'avait jamais renoncé à le faire. C'est ce qui est aussi assez frappant, c'est que on parle beaucoup du renoncement et de ce à quoi nous ne pouvions plus avoir accès. Et pourtant, cet enseignant-là faisait son travail et il affrontait les sujets de manière très simple et très claire avec ses élèves. Et beaucoup de ses collègues disent qu'il le faisait même de manière bienveillante.
Mais justement, Ali, si toute l'école le faisait tous les jours, cet enseignant n'aurait pas été isolé. Là aussi, il va falloir regarder comment ça s'est passé, mais cet enseignant a été menacé. La oui. principale de son collège l'a visiblement soutenu. Il va falloir regarder comment s'est joué tout cela, mais cela fait des années que certains professeurs alertent sur le fait qu'ils ne sont pas soutenus, sur le fait qu'ils se sentent fragilisés et que donc petit à petit, bien, ils renoncent parce qu'il faut une force exceptionnelle pour continuer à jouer ce rôle, à remplir cette mission, dans un cadre où l'on vous explique que si vous faites ça, vous êtes soit un bout de feu, soit un raciste provocateur. Donc, c'est pour ça que je soulignais la phrase d'Emmanuel Macron sur nous faisons bloc.
Oui.
Faisons-nous bloc réellement ? Avons-nous eu ce débat collectif qui consiste à savoir en quoi nous croyons ? Et ce qu'est la République que nous prétendons défendre. Tout le sujet est là. C'est-à-dire que il va falloir encore une fois éclaircir les circonstances précises. Mais le fait que certaines associations, que certains mouvements utilisent notre état de droit pour faire prévaloir une conception de la société qui nie l'état de droit est un problème auquel nous n'avons pas encore de réponse. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des associations, le CCIF notamment, qui traquent la supposée islamophobie, et ce n'est sans doute pas un hasard si le père de famille qui le plus violemment a protesté contre l'action de ce professeur en a appelé au CCIF. C'est-à-dire qu'il y a là cette idée que on va utiliser tous les instruments possibles pour empêcher cette diffusion de la raison universelle et de ce qu'elle comporte d'essentiel, à savoir le fait que les individus peuvent décider librement ce en quoi ils veulent croire ou non et s'ouvrir au fait que d'autres ne croient pas la même chose qu'eux.
Gilles Finkelstein.
Oui, Ali, vous disiez, cet enseignant n'a pas renoncé à le faire. La question, je crois, qui est posée maintenant est de savoir quelle va être la portée de cet événement.
Oui.
Peut-être qu'il aura une portée limitée. On ne le sait pas à ce stade. Peut-être que beaucoup de Français considéreront que c'est un attentat de plus et que année après année, on finit par avoir une sorte d'accoutumance.
Et qu'on vit avec.
Peut-être que, à l'inverse, il y aura là une césure, un avant et un après. C'est possible parce que l'attentat est horrible, parce que c'est la figure du professeur, et donc peut-être qu'il y aura une prise de conscience, une forme d'électrochoc. Peut-être aussi. Parce qu'on ne sait pas s'il y a un avant et un après, dans quel sens ça va se faire. Peut-être que ça va être aussi un geste de recul, une forme d'autocensure, c'est ce que disait Yannis Roder ce matin.
Sur Inter, oui, bien sûr.
Et d'autocensure qui peut être compréhensible. Et donc, je crois que la question qui nous est posée, et comme on a les vacances, il faut maintenant prendre les 15 jours qui viennent pour poser ça, de savoir qu'est-ce que ça voudra dire faire bloc, et qu'est-ce que ça voudra dire concrètement, le jour de la rentrée, de faire bloc. Comment on ne laisse pas les enseignants tout seuls dans cette rentrée? Comment la nation se met derrière toute l'institution scolaire et derrière les enseignants pour que cette question-là soit abordée sereinement, mais soit abordée?
On a vu ce matin le Benoît Test, qui est secrétaire général de la FSU, sortir d'une réunion avec Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et il annonçait une action à la rentrée, justement, dont on ne connaît pas encore les contours, à la rentrée scolaire le 2 novembre prochain dans les établissements, et sa volonté d'organiser des rassemblements dès ce dimanche. Natacha, l'ancien président de la République, François Hollande, déclarait tout à l'heure qu'attaquer un enseignant, c'est une attaque contre la République. D'après vous, c'est la définition même de la République qui est en jeu aujourd'hui?
Je le disais tout à l'heure, notre idée collective de la République est indissociable du rôle de l'école. C'est très particulier à la France, et il faut rappeler à quel point c'est particulier à la France. Le New York Times a fait un titre ce matin sur son site qui disait « Un suspect abattu par la police après qu'il a attaqué au couteau un enseignant ». C'est-à-dire qu'on renverse le problème et l'horreur de l'information. Et je pense que le problème aussi, et c'est pour ça que je soulignais le rôle des réseaux sociaux, le rôle de la modernité dans ce qu'elle a dans la compréhension qu'on peut en avoir, c'est que cette conception de l'école comme lieu d'émancipation, elle n'est pas unanimement partagée, même dans ce qu'on appelle les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a cette différence identifiée depuis déjà quelques décennies entre les démocraties libérales à l'anglo-saxonne, où l'on estime que la façon dont la France pense la laïcité est incompréhensible, que ce serait... Enfin, vous voyez à quel point la presse anglo-saxonne, en grande partie, le New York Times en tête, organise une campagne de décrédibilisation, de délégitimation de la laïcité à la française en expliquant que ce serait une forme de racisme, que la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école serait raciste. Et tout ça, ça a un impact parce que nous sommes désormais dans un univers mondialisé où ces idées-là diffusent, une forme de globalisation culturelle, et ce fait aujourd'hui nous frappe parce qu'il est au croisement entre la dimension hyper contemporaine de la globalisation culturelle et la barbarie atroce dans ce qu'elle a pour nous de plus régressif et de plus immonde, de plus archaïque, du geste tel qu'il a été fait. Et c'est cela qui se cogne aujourd'hui. Et je pense que la laïcité à la française, notre conception de l'espace politique est pris en étau entre les formes de régression que l'on peut constater partout dans le monde, de la part notamment d'une religion qui nie sa propre diversité et sa propre modernité en ce moment,
oui,
et une version ultra contemporaine d'un néolibéralisme dévoyé qui consiste à réduire la société à son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire des individus qui n'ont plus rien à voir entre eux.
Pour rendre justice au New York Times, il faut malgré tout indiquer que dans le dernier papier qu'ils ont publié aujourd'hui, ils décrivent l'enseignant décapité comme un martyr de la liberté d'expression. Gilles Finkelstein.
Oui, Natacha. Oui,
d'accord, mais enfin, juste une chose, on est bien d'accord que le New York Times a une ligne éditoriale qui cible depuis...
Ah non, bien sûr. Mais
déjà
c'est pas
plusieurs années la France de façon hallucinante.
Le sujet, c'était juste une précision.
Alors,
Gilles.
Natacha disait que notre conception de la démocratie, de la laïcité, de l'esprit critique n'était pas unanimement partagée dans les autres pays, ce qui est une évidence. Si on regarde la réalité en face, elle n'est pas unanimement partagée, y compris dans notre jeunesse. Et je crois que c'est aussi la source du problème et ce qui explique... le début de l'enchaînement de ce qui s'est passé et qui a conduit à cet assassinat. C'est vrai de manière générale. Caroline Fourest a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelait Génération offensée, dans lequel elle montrait à quel point toute remise en cause était vécue par une partie de cette génération comme un affront, comme une offense, comme quelque chose d'insupportable.
Et ce sont des enquêtes que vous avez menées et à la Fondation Jean Jaurès et dans le magazine Marianne.
Oui, c'est vrai. Et alors, de manière plus précise, quand on regarde sur la question de la religion, on avait soutenu une étude du CNRS qui avait été conduite par Anne Muxel et Olivier Galland après les attentats de Charlie, qui était la plus grosse enquête qui avait été faite précisément auprès des adolescents de 15 à 17 ans. Et ce travail avait été appelé la tentation radicale, parce qu'il montrait qu'il y avait toute une gamme d'attitudes, d'une neutralité bienveillante jusqu'à un soutien, une forme à la fois d'absolutisme, de séparatisme, et qui pouvait aller jusqu'au terrorisme. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, lorsque s'est ouvert le procès de Charlie, on avait publié une enquête de l'IFOP dans laquelle, notamment, on montrait que le pourcentage de Français musulmans qui disaient faire passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République,
oui,
était important, et qu'il était encore plus important chez les jeunes. Donc, je crois que ces éléments-là permettent de bien comprendre ce qui a été à la source et qui dépasse le problème que l'on peut avoir d'une conception différente avec d'autres démocraties.
Et vous aviez également été intéressé par les résultats de ce sondage ou de cette enquête d'opinion, Natacha, justement, sur la proportion de ces jeunes et de ces jeunes musulmans pour qui publier des caricatures religieuses était un tort.
Oui, parce que justement, tout l'enjeu, c'est de préserver ce qui fait notre unité nationale, c'est-à-dire le fait que nous participons tous à la même société et que nous vivons ensemble. Et pour préserver cela, il y a un principe qui est celui de l'intégration de toutes les jeunes générations par la transmission des valeurs. C'est justement le rôle de l'école, c'est là-dessus que nous devons nous interroger. Comment on fait pour transmettre cela, même à des jeunes gens qui, dans leur famille, reçoivent un enseignement qui, parfois, est très différent?
Ça, c'était extrêmement compliqué, Gilles.
Ouais, je vais peut-être ajouter un autre élément qui a été peu évoqué, mais qui illustre bien l'ampleur du problème. C'est que ce qui s'est passé là, s'est passé à Conflans, à Conflans-Sainte-Honorine. Conflans est une ville dans laquelle il y a, disons, les débuts de concentration communautaire. Mais pour l'essentiel, Conflans, c'est la ville des bateliers, c'est la ville des mariniers, c'était la ville qui a été administrée par Michel Rocard et par Jean-Paul Huchon pendant longtemps. C'est une ville dans laquelle beaucoup d'investissements ont été faits auprès des associations, du monde culturel, pour le lien social, dans laquelle la structure urbaine n'est pas du tout celle de grandes cités, de densités, mais de quartiers pavillonnaires, ce qui était le cas de celui dans lequel les événements se sont passés, y compris dans dans ce quartier et dans ce collège, qui est un collège récent, relativement récent, qui a une vingtaine d'années, il n'y avait apparemment aucun problème majeur. Et pourtant, il y avait des problèmes.
Il y avait des problèmes, évidemment. Et on aura l'occasion d'y revenir dans l'ensemble des journaux de la rédaction de France Inter tout au long de cette journée. Restez à l'écoute de notre antenne. Et il y a maintenant, Gilles et Natacha, un autre sujet sur lequel nous allons nous arrêter. C'est celui, évidemment, du couvre-feu, des nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. On va maintenant retrouver Emmanuel Hirsch, notre invité. Un entretien enregistré hier, avant l'attaque.